Nous avons vu les paramitas, plusieurs paramitas maintenant, qui sont ces puretés dans l'esprit. Ce soir, j'aimerais continuer avec l'énergie. L'énergie, dans ce sens-là, c'est cette énergie d'acceptation, d'accueil, cette conscience qui est alerte tout en étant calme. Et ça n'a rien à voir avec l'énergie mentale liée à l'avidité, au stress, à la satisfaction des projections qui sont les nôtres. C'est une énergie qui est ancrée dans la pleine conscience. L'esprit est en repos. Et en repos de quoi? Eh bien, de cet aveuglement conceptuel qui fait que je crois que je suis ce que je pense des choses et que la réalité est ce que je pense d'elle. Donc c'est lié au renoncement. Tous ces paramitas sont liés entre eux. C'est intéressant de voir comment, quand la pleine conscience est bien établie et que la sagesse fonctionne, au fond, tous ces paramitas sont disponibles. Il y a la détermination pour être là, il y a la patience par rapport à l'expérience, il y a la bienveillance parce que je sais que la nature humaine est limitée et que la seule manière de lui permettre de trouver qui elle est vraiment, c'est cette bienveillance à l'instant, quel qu'il soit. Il y a l'authenticité parce que j'ose ouvrir aux énergies de l'ombre, elles ne me font plus autant peur, je n'ai plus autant besoin de les tenir à distance. Et il y a ce renoncement à laisser être longuement les pensées obsessionnelles au service du moi. Donc l'énergie, elle émerge du travail de pleine conscience. Et c'est une énergie qui est libre de l'instant. L'autre jour, on avait le comité, et puis j'étais vraiment fatiguée. J'avais un comité, mais j'étais crevée, épuisée. Et puis, c'était intéressant, ça m'arrive souvent, que le fait de totalement abandonner la réactivité, d'être totalement exténué, il n'y a plus de fatigue. La fatigue est énormément créée par tout ce que j'en fais, par cette identification à un moi fatigué qui se fatigue lui-même d'être fatigué. Mais l'abandon à l'exténuement recharge les batteries. C'est une expérience que nous pouvons vraiment faire. Comment le problème, ce qui nous vide de notre énergie vitale, c'est l'identification. C'est le moi qui est saisi par la pensée et nous construisons un problème là où nous pouvons avoir accès à une libération d'énergie. Ou parfois, nous nous sentons séparés. Le corps n'est pas vraiment bien, c'est pas super franchement. Là j'ai vraiment le choix au niveau énergétique. Soit partir dans cette énergie mentale qui va me fatiguer encore plus, absolument pas me rendre moins séparée, parce que la séparation devient un problème. Ou bien m'abandonner, ah ouais je me sens complètement séparée. Et c'est une forme d'unification. L'abandon à l'instant est une recharge énergétique, est une manière de puiser dans notre sagesse. Alors que de nous mettre en réactivité, de croire à l'expérience, c'est vrai, c'est horrible. Bien sûr, c'est vrai, c'est merveilleux aussi, mais à ce moment-là, on n'a pas spécialement envie de le voir, voir cet attachement. Et alors, l'esprit n'est plus en repos. Donc l'éveil, ça n'est pas quelque chose de positif à créer. L'éveil, c'est une absence. C'est une absence des trois A que sont l'attachement, l'aversion et l'aveuglement. Et quand l'esprit s'est vidé de ce qui est identifié, ce qui est approprié, moi à moi, le mien, en termes d'énergie, en termes d'émotion, en termes de pensée, alors ce qui reste, c'est ce vide qui est profondément vivant, profondément alerte, profondément spacieux et silencieux et bénéfique. Et lorsqu'il y a cette qualité d'énergie, le cœur est silencieux, mais le cœur a aussi compris. Il a tellement compris que le laisser être implique le lâcher prise. Et c'est quelquefois dur de comment ne pas réagir à la souffrance. Quelqu'un me disait, mais j'ai de la mauvaise volonté, j'ai pas envie de faire. Quoi, t'as pas envie? Tu laisses être, t'as pas envie. Alors j'ai retrouvé ça que j'avais écrit dans une retraite. Parfois l'enfant intérieur veut être tout puissant, il veut pouvoir choisir, il veut pouvoir dire oui à ce qu'il désire et non à ce qu'il ne veut pas. Il veut pouvoir contrôler. Il sait que c'est impossible, mais il refuse de voir obstinément. Expose cette obstination à la lumière de la pleine conscience sans aucune crainte. Le salut vient de la force de la présence. C'est toujours possible d'avoir recours à l'énergie de la pleine conscience. Simplement, il y a cette exploration. Quel est le bon objet de conscience? Qu'est-ce que j'ai à exposer? Et dans notre nature ignorante, nous sommes liés à l'image. L'image qui croit à elle-même. L'opinion qui estime avoir raison. Et avec la sagesse, avec la pleine conscience, avec la fin de l'ignorance, il y a cette connaissance. Mais la connaissance, ça n'est pas quelque chose de fixe. C'est quelque chose qui connaît les limites du moi, qui sait que là maintenant, pendant que je parle en français, je ne peux pas vous parler en chinois, que je parle avec mes références personnelles au niveau d'une construction d'une personne pendant une vie. Donc ce moi est limité, mais il n'est pas que ça. Il est aussi ce qui est au-delà. Il est aussi ce qui est ce qui connaît. Le fait de connaître le moi limité, c'est comme si ça le projetait dans l'illimité. La connaissance nous permet de mettre les choses à leur place. Ça, c'est le monde conditionné. Okay. Et du moment qu'il y a cette connaissance, alors il y a ce profond ancrage dans l'ultime, dans ce qui est non-création. Donc, que nous cultivons la pleine conscience et peu à peu nous comprenons la différence entre l'énergie qui est ancrée dans le corps, que ce soit intérieur ou extérieur, dans les sons, dans ce qui est pur, simple, et cette énergie mentale qui me fait explorer comment arranger les choses de manière parfaite. Et ça, c'est l'illusion. Ça ne sera jamais parfait. Et nous perdons une énergie folle à essayer d'avoir les choses comme je les veux, que ce soit dans le monde ou à l'intérieur. C'est une illusion collective. Alors nous mettons en priorité ce qui est impermanent. Et l'effort dans l'exercice de la méditation, c'est de mettre en priorité la pleine conscience, qui est toujours possible, et voir ce qui est impermanent. Ok, laisser être cette danse de la vie. Et si l'esprit est dans l'avidité, dans le désir et dans l'attachement, voir, il n'y a pas de contentement, il n'y a pas d'équanimité, il n'y a pas de paix. Et si l'esprit est dans l'avidité, le rejet, le mépris, le jugement, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de gentillesse. Et si l'esprit est dans l'aveuglement, la confusion, qu'il est trouble, qu'il est envahi de pensées obsessionnelles, il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de discernement. Et c'est important de voir ça, non pas de chercher à faire autrement, mais dans l'instant, il y a ça, juste maintenant il y a ça. Et nous pouvons sentir cette perte d'énergie, cette espèce de conflit intérieur qui s'installe, épuisant. Avec la libération, la connaissance devient prioritaire, cette énergie connaissante. Quelquefois, je sais, j'ai l'impression de savoir. Quelquefois, j'ai l'impression de ne pas savoir. Quelquefois, c'est tout clair. Quelquefois, c'est obscur. Et je sais que je suis les contraires, que je suis le paradoxe. Que c'est la nature humaine elle-même. Donc, d'une certaine manière, l'ombre et la lumière sont opposées, d'une autre manière, ils sont complémentaires. Et je suis les deux, ou bien peut-être je ne suis ni l'un ni l'autre. Quand je touche au « je suis ». L'énergie qui commence à se... À travers ce chemin de connaissance, l'énergie commence à se transformer, à venir dans la priorité à la pleine conscience, qui donne du soin, qui donne de la tendresse à l'expérience, qui donne cette qualité d'équanimité, d'ouverture du cœur. Je vous lis encore une chose que j'avais écrite. Quand le moi renonce à contrôler, tu vois que tu existes et que tu n'existes pas. Tu vis et tu ne vis pas. Tu penses et tu ne penses pas. La réalité vécue par le corps-esprit est une impression appliquée sur la conscience. La conscience reçoit cette impression moment après moment. Si l'esprit y croit, tu es dépendant des impressions bonnes ou douloureuses appliquées sur la conscience. Si l'esprit les voit et n'y croit pas, tu continues à faire l'expérience de la vie dans toute sa richesse et tu en es libéré. Tu vis et tu ne vis pas. Et c'est ça faire la différence entre la vie conditionnée ou la réalité conditionnée et la réalité ultime. Nous sommes conditionnés. C'est la réalité, on ne peut que le voir, que le constater. Et pourtant, nous ne sommes pas que cet être conditionné. On pourrait dire que nous sommes déjà morts. Nous sommes en même temps vivants, c'est-à-dire limités, et déjà morts, c'est-à-dire libres. J'ai une amie qui a enterré son papa et puis sur le faire part, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a écrit. C'était écrit « Avec sans toi, la mort est dans la vie. Avec toi, la vie est dans la mort. » Sans cette pleine conscience qui donne vie à l'instant. La mort est là. Nous sommes aveugles. Nous vivons nos vies de manière terriblement étriquée. Et avec cette pleine conscience au moment de la mort, la vie est dans la mort. Le mot nirvana veut dire, nir c'est la fin et vana c'est l'agrippement. C'est la fin de l'agrippement. L'ouverture ici et maintenant, en pleine conscience, à l'expérience, mais gratuite, libre. Je ne suis pas l'expérience. Et ça peut vraiment être expérimenté. D'abord, c'est pressenti intellectuellement, on comprend presque bien, pas tout à fait. Et avec l'exercice de la méditation, ça s'incarne dans le corps. Et on sent vraiment comment l'énergie du lâcher-prise rend l'instant imparfait à sa perfection. Donc l'éveil, c'est un repos qui est lié à la cessation de l'agrippement. Et quand je m'agrippe, qu'est-ce que je fais? Je pense en boucle. La pensée obsessionnelle s'installe. C'est pour ça que c'est important de nommer la pensée pour ce qu'elle est, souvenir ou projection, évaluation, jugement, imaginaire, discernement, quelquefois c'est le discernement, investigation. Et puis de temps en temps, de regarder un peu le contenu de la pensée sans la laisser nous submerger, juste pour voir que ce même contenu vient 10 fois, 20 fois, 30 fois, et avec un peu de chance, l'esprit s'enlace. Le Bouddha a dit, de même que le couteau a la capacité de couper, l'esprit humain a la capacité de s'éveiller. Nous avons le pouvoir de nous éveiller, de trouver cet esprit en repos. Et premier fondement, le corps. Quand je sens cette énergie mentale qui s'installe, quoi faire? Ah, premier fondement, le corps. Et peut-être que si l'émotion qui est derrière est forte, cette énergie mentale ne va pas pouvoir être tenue, être maîtrisée longtemps, mais ça fait rien, nous avons un outil, nous avons un fil rouge, nous ne sommes pas totalement perdus. Et alors l'exploration commence, et elle est bonne, peu importe si nous sommes longtemps en chemin, le chemin est bon, il est aussi bon que le fruit. Je vous lis un bout du Honeyball Sutta. C'est le Bouddha qui parle à ses moines et qui leur dit, je vous l'ai déjà lu, mais je trouve qu'elle est tellement parlante et puis elle n'est pas si simple. Bhikkhu, quant à la source à travers laquelle les perceptions et les notions nées de la prolifération mentale emprisonne l'être, la source qui fait qu'à travers cette pensée obsessionnelle, je me mets moi-même en prison. Alors, il parle de cette source-là. Si rien n'est trouvé dans ces pensées pour s'y réjouir, pour être accueillant et s'attacher, c'est la fin des tendances sous-jacentes à la convoitise, à l'aversion, aux opinions fixes, aux doutes, à l'orgueil, au désir d'existence et de non-existence, à l'ignorance. C'est la fin de l'emploi des armes, des querelles, des disputes, des récriminations, des mots méchants et de la parole qui sépare. Là, ces états malsains s'arrêtent sans qu'il n'en reste rien. Donc, c'est important de sentir et nommer quand l'énergie vitale dévie sur l'énergie mentale et que l'énergie mentale devient une prison. Parce que nous créons tout à partir de la pensée. Et ce que nous pouvons changer, ça n'est pas le monde, ni notre monde intérieur, ni le monde extérieur, mais c'est notre regard sur le monde. C'est comment nous pensons le monde. Et énergétiquement, quand l'expérience devient douloureuse, qu'il y a séparation, c'est séparation. Et je maintiens l'intérêt, je maintiens l'inclusion, je maintiens la bienveillance, la patience. Et à terme, presque instantanément, je peux sentir ce lâcher prise. Et quand il y a lâcher prise, peu importe que l'émotion soit perturbatrice, puisque je ne lui donne plus aucun pouvoir. Faire notre boulot et donner du soin à l'instant. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir.